temps de comprendre.
C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Je vais changer un peu l'ambiance, parce que là, on parlait de justement de bonheur, de se rassembler, de trouver quelque chose sur quoi s'accrocher, mettons, dans des temps qui sont peut-être un peu plus moches normalement. On a eu des journées plates aussi, on disait que la température affecte le moral de temps en temps. Ça, c'est toutes des choses qui sont passagères, mais il y a la dépression qui ne l'est pas nécessairement passagère. Puis on s'en parle ce matin parce qu'une nouvelle étude québécoise financée par la Fondation Cerveau qui est apparue, puis je trouve ça quand même intéressant. Bon, il y en a qui vont me dire, ben oui, mais en même temps, Audrey, on le sait, c'est logique. Ouais, mais quand les études commencent à le prouver, il y a des choses qui peuvent changer, mm-hmm. puis ça peut devenir intéressant. La ligne principale de l'étude, c'est la dépression serait une maladie différente chez les femmes et chez les hommes. Fait que là, c'est une boîte de Pandore, ça, là. On donne-tu la bonne médication? Est-ce qu'on gère ça de la bonne façon? Il y a plein de questions qui entrent en ligne de compte. Et on va parler avec le docteur qui a mené cette étude-là, Benoît Labonté, qui est au bout du fil. Benoît Labonté, bon matin.
Oui, bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous êtes fan des Canadiens, docteur Labonté?
Absolument.
Bon, vous êtes dans la fièvre des séries, vous aussi.
Totalement.
On veut qu'ils gagnent cette semaine. Hein? On n'attend pas samedi en 6.
Oh ouais, le plus en 5, ça serait mieux. Là, j'entendais la discussion au début. En 6, ça va, mais en 5, tu sais, ça serait réglé.
Fait, ouais. Bon, parlons de cette étude-là que vous avez menée. J'ai quand même envie de demander la question super banale du pourquoi. Pourquoi continuer à faire des études, par exemple, sur la dépression quand on a déjà l'impression, puis je dis ça, mais pour le public, d'avoir fait le tour puis de connaître c'est quoi la dépression, puis on la traite, la dépression. Pourquoi on s'y penche encore?
Oui, écoutez, la dépression, c'est une maladie extrêmement complexe, puis les études actuelles montrent là, que, oui, avec les années, on a fait des études, on comprend beaucoup mieux la maladie, on comprend mieux comment qu'elle se présente, on commence à comprendre certaines bases biologiques, qu'est-ce qui explique la maladie derrière l'expression des symptômes, mais malgré tout, la maladie demeure, les traitements actuels sont très peu efficaces. On parle d'environ 30 % des gens qui vont avec les traitements conventionnels qui vont répondre bien, mais il reste la moitié qui vont soit avoir qui vont se remettre et qui vont revenir malades ou certains qui vont juste pas répondre au traitement. Donc c'est vraiment important de continuer la recherche pour aller mieux comprendre la maladie puis mieux la traiter.
En frais de santé mentale, on est-tu quand même avancé dans les études? Parce qu'il y a plus que la dépression, mais j'ai le sentiment des fois qu'on est encore un peu arriéré, justement, sur tout ce qui touche la santé du cerveau.
Oui, mais tu sais, le cerveau, c'est extrêmement complexe. Puis pendant des années, on a eu de la difficulté à l'étudier là, tu sais, adéquatement. Si on se compare, par exemple, avec d'autres disciplines de la médecine, encore une fois, en santé mentale, on a très peu de biomarqueurs. On commence à comprendre les causes génétiques. On commence à comprendre un peu les mécanismes biologiques derrière, mais ça reste encore mal compris par rapport à d'autres maladies. Par exemple, c'est le cancer ou des troubles métaboliques.
C'est-tu
là, où
génétique?
On a maintenant des approches plus efficaces. Pardon, excusez-moi.
La dépression, c'est l'est-tu génétique ou pas pantoute?
Ben, il y a des bases génétiques, mais des études montrent que c'est l'hérédité ou la transmission héréditaire est relativement faible. On parle d'environ 30 % selon les grandes études génétiques. Donc, ce qui fait que la dépression, c'est plus une maladie, je dirais, environnementale. Donc, c'est qui va s'induire ou qui va se développer en fonction des événements qu'on vit au cours de notre vie.
Quand on dit que la dépression serait une maladie différente chez les femmes et chez les hommes, Audrey parlait d'ouvrir une genre de boîte de Pandore où on peut aller à plein de places avec ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que à partir du moment où on fait ce constat-là, ça ouvre la porte à tellement d'autres études sur tellement plein d'aspects différents?
Ben absolument. Tu sais, on parle de différents, on mentionne beaucoup de maladies complètement différentes chez l'homme et chez la femme. Le problème, c'est que pendant des années, la maladie, la dépression, par exemple, n'était pas étudiée vraiment en fonction des deux sexes. Et puis ça, c'est pas juste pour la dépression, c'est toutes les études en sciences biomédicales, par exemple, où ça incluait majoritairement des hommes ou des mâles chez les études précliniques, et où encore les différences entre les deux sexes n'étaient pas faites. Fait qu'on a quand même développé de la connaissance sur ces maladies-là, mais on n'a pas développé la connaissance de ce qui différenciait les deux sexes. Mmh. Et là, dans les études qu'on a mis de l'avant, nous autres, dernièrement, ben c'est justement de comparer systématiquement les hommes et les femmes pour voir ce qui est commun et ce qui est différent, ce qui peut être utilisé dans un sexe ou dans l'autre, là, tu sais, pour mieux la comprendre, mieux la suivre et mieux la traiter.
À quel point c'est différent par rapport à ce que vous avez vu?
Ouais, ben nous, on utilise beaucoup des approches de génomique. Par exemple, on regarde l'expression des gènes. Donc, les gènes, c'est ce qui permet aux cellules de fonctionner. Dans le cerveau, on a nos neurones et plein d'autres types cellulaires. Et donc, les gènes, eux, vont permettre à notre cerveau d'être fonctionnel. Et ce qu'on a observé, c'est que si on regardait les gènes qui étaient différemment exprimés, ceux qui sont affectés chez les femmes déprimées et chez les hommes déprimés, ben on avait seulement 5 à 10 % de chevauchement ou de gènes qui étaient affectés de la même façon dans les deux sexes. Et c'est là qu'on est venu au constat que si on regardait seulement la maladie d'un point de vue des gènes, on pourrait penser à deux maladies différentes. Et c'est là que ça vient, là, la grosse différence.
Puis ça se décline comment, mettons, au-delà des gènes? Y a-t-il une affaire d'hormones, de réaction au stress?
Oui, il y a différentes possibilités. Comme vous dites, là, évidemment, il y a les conditions hormonales qui sont différentes chez les hommes et chez les femmes. Il y a le sexe biologique qu'on appelle. Donc, les hommes et les femmes ont un chromosome différent. Les femmes ont deux chromosomes sexuels X et les hommes ont un chromosome Y et un chromosome X. Et donc, évidemment, il y a des gènes qui vont être exprimés différemment dans un sexe et dans l'autre. D'un point de vue concret, par exemple, on a pu voir avec des études, encore une fois avec les gènes, qu'on a trouvé des signatures. Par exemple, on le sait là, que les hommes et les femmes vont exprimer relativement les mêmes symptômes, ou en fait, la maladie va être évaluée sur la base de l'expression des symptômes qui sont communs chez l'homme et chez la femme. Par exemple, perte de plaisir pour ce qui était normalement plaisant, ou désespoir, sentiment de culpabilité, idéation suicidaire, etc. Mais ce qu'on a vu, nous, c'est qu'il y avait des signatures moléculaires, donc des signatures des groupes de gènes qui étaient les mêmes là, chez les hommes et chez les femmes, mais qui allaient être associés avec l'expression de certains symptômes dans un sexe ou dans l'autre. Et là, ça, c'est un exemple concret là, de qu'est-ce qui peut être, comment ça peut être utilisé. Parce que par la suite, on pourrait se dire, si on veut traiter un symptôme chez la femme, par exemple, on pourrait utiliser des approches qui viendraient affecter spécifiquement ces signatures-là et la même chose chez l'homme, par exemple.
Je suis pas mal certain que la réponse ne peut pas être claire puis nommer vraiment un des deux sexes, mais est-ce que la dépression est pire chez l'homme ou chez la femme, ou j'imagine que ça se décline juste différemment?
Je pense pas qu'on peut dire pire, là, comme vous dites. Mais par contre, il y a des différences là, dans ces manifestations cliniques. Tu sais, par exemple, les femmes vont être 2 à 3 fois plus susceptibles de développer des comportements dépressifs que les hommes. Le début des épisodes dépressifs va souvent survenir plus rapidement chez les femmes. Il va y avoir des épisodes dépressifs qui vont être plus forts chez les femmes que chez les hommes, par exemple. Puis il y a aussi l'expression, tu sais, par exemple, de comportement ou de symptômes plus particulièrement, par exemple, de l'anxiété qu'on va retrouver beaucoup plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes, entre autres. Et donc ça, c'est l'expression de la maladie qui va être un petit peu différente. De là à dire qu'elle est pire, je pense pas qu'on peut dire ça, mais il y a quand même des différences qui existent là, au niveau phénotypique.
Ça va vraiment sonner généralisation, ce que je vais dire, mais c'est-tu juste parce que les femmes ont tendance peut-être à l'exprimer davantage?
Écoutez, c'est une bonne question. Je serais pas prêt à dire ça. Je pense qu'il y a quand même des outils qui sont vraiment bien développés là, pour quantifier ces choses-là au niveau clinique, l'expression des symptômes, par exemple. Puis même quand on va dans des modèles précliniques, on peut voir des choses très semblables. Nous, dans le laboratoire, on a développé aussi des outils pour essayer de comprendre l'impact biologique de ces changements-là. Comment, par exemple, les changements dans l'expression des gènes vont affecter l'activité du cerveau et le comportement. Donc, on a développé des modèles précliniques et on peut voir que ce qu'on observe, par exemple, chez l'humain, on l'observe également en grande partie chez la souris, par exemple, et qu'on peut induire ces comportements-là autant chez le mâle ou chez la femelle et les manipuler là, en manipulant l'expression des gènes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Là. C'est vraiment une observation concrète, réelle.
C'est ça que je voulais vous demander, Dr. Labonté. C'est sur des souris que vous avez fait l'étude?
On a dans le laboratoire, on s'intéresse on a différentes approches là. Évidemment, on s'intéresse toujours au départ avec à la condition humaine. Donc on travaille avec en collaboration avec des banques de cerveau. Donc on a du tissu post-mortem, des gens qui ont fait des dons de tissu à leur décès. Et avec ça viennent des informations cliniques très élaborées. Donc, on peut savoir, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont vécu au cours de leur âge, quels symptômes ils exprimaient au moment du décès, etc. Et donc, on peut extraire le matériel génétique de ces cerveaux-là et vérifier ce qui se passe là au niveau des gènes, comme je l'ai dit. Mais évidemment, c'est des tissus qui sont morts, donc on peut pas vraiment comprendre l'impact biologique. Donc, ça nous prend des outils par la suite. Et donc, nous, dans le laboratoire, on a aussi un aspect translationnel avec des modèles animaux chez la souris, par exemple, où on peut reproduire certains comportements. Mais il faut faire attention, quand on travaille avec des modèles animaux, ça reste un modèle. On n'est pas en train d'induire la dépression chez la souris, mais on peut quand même mesurer des comportements qui ressemblent à ce qu'on observe chez l'humain qui va être déprimé, par exemple.
Ça a l'air niaiseux, mais comment vous faites la différence entre l'homme et la femme avec les souris?
Ben le génome, par exemple, chez la souris, a 70% d'homologie. C'est spécial, pareil, à dire. Mais 70% du génome est le même chez la souris par rapport à l'homme. Et donc, c'est quand même un bon modèle pour étudier ça. On a fait des études aussi qui regardaient, par exemple, la structure du génome chez l'humain et chez la souris. Et on a pu retrouver plusieurs similitudes. Évidemment, il y a des différences aussi. Mais ça nous permet vraiment de déterminer, quand on observe quelque chose chez l'humain, est-ce que le modèle nous permet de l'étudier en détail et de comprendre l'impact biologique que ces changements-là vont avoir sur l'activité du cerveau.
Tantôt, en ouverture, je parlais d'ouvrir des portes avec cette découverte-là, d'aller fouiller dans plein d'autres affaires. À quel point ça peut en ouvrir des portes par rapport à d'autres maladies mentales, t'sais, de faire maintenant des distinctions homme-femme dans un paquet d'autres maladies mentales?
Oui, c'est vraiment un domaine qui s'est beaucoup agrandi là, dans les dernières années. Justement en évaluant un peu la même chose, mais dans d'autres conditions psychiatriques. Par exemple, chez les troubles bipolaires, schizophrénie, autisme, entre autres. Et donc, on en voit de plus en plus, puis c'est pas unique à la dépression. On voit beaucoup, beaucoup de différences sexuelles également dans d'autres maladies. On peut même aussi retrouver des différences communes entre les maladies chez les hommes ou chez les femmes. Donc, il y aurait des bases communes des bases moléculaires qui seraient communes à chaque maladie sur lesquelles on pourrait agir. Et évidemment, l'impact que ça peut avoir aussi, c'est au niveau du traitement, de la connaissance de la maladie, pour mieux la traiter. Ultimement, l'idée, ça serait de pouvoir intégrer ces connaissances-là ou ces approches-là aussi en clinique pour qu'on puisse avoir un traitement beaucoup plus personnalisé. L'idée de traiter, par exemple, certains symptômes avec des approches qui vont cibler ces symptômes-là et non pas d'autres pour induire des effets secondaires, par exemple. Puis également suivre ou traiter la maladie en fonction de son évolution, en fonction de l'expression des symptômes et puis l'évolution des signatures biologiques en parallèle.
À partir du moment où on a toutes ces informations-là, comment on peut traiter de la bonne façon la dépression chez les hommes et chez les femmes? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est de s'intéresser à la médication? Ça ressemble à quoi?
Mm-hmm. Oui, ben absolument. Évidemment, je pense, comme je le disais là, en entrée, là, la dépression, c'est extrêmement complexe. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour mieux la comprendre d'un point de vue biologique. Puis ça, en comprenant mieux la maladie, ben ça va nous donner des meilleures cibles thérapeutiques, des meilleures façons de traiter la maladie. Il y a beaucoup d'approches au cours des dernières années qui ont été développées, séparées, je dirais, des approches plus conventionnelles pharmacologiques avec les médicaments qu'on prend. Maintenant, il y a des approches de stimulation, il y a des approches qui combinent la génétique également pour mieux traiter la maladie. Donc, c'est vers ça, je pense, que le domaine va évoluer, c'est-à-dire trouver des approches qui nous permettent de traiter mieux la dépression dans un sexe et dans l'autre, tout en réduisant les effets secondaires. Ouais.
Docteur Benoît Labonté, derrière la nouvelle étude québécoise financée par la Fondation Cerveau qui nous amène là, à la découverte, j'ai envie de dire, à l'effet que la dépression serait une maladie différente chez les femmes et chez les hommes. Docteur Labonté, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.
Votre prédiction pour le match canadien-sable de demain?
Ouf. Moi, je dirais, là, ils vont faire des changements, les sables, c'est sûr. Je dirais peut-être 4-2 canadiens.
C'est bon, ça. Je suis à peu près à la même place.
Avec un but dans un filet désert.
OK,
voilà.
Merci beaucoup, Docteur Labonté. Bonne semaine.
Salut.
OK, salut.
Salut. D'ailleurs, parlant du Canadien, au retour de la pause, je vous parle de plusieurs rappels auxquels le Canadien a procédé dans les dernières minutes. Le Rocket de Laval a été éliminé dans les derniers jours. Fait que là, le Canadien prend une gang de gars du Rocket puis on amène ça à Montréal comme réserviste pour les séries. Et petit scoop, là-dedans, il y a le frère de l'autre. Florian Jacky s'amène avec le Canadien. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer, mais il va au moins s'entraîner avec l'équipe. Merci Audrey, on t'écoute de 14h dans le retour.
Salut!
L'Open Mic avec Audrey Pinchot.